Faculté des lettres Sorbonne Université. Service des examens de langue française réservé aux étudiants étrangers. Certificat pratique de langue française. Module compréhension et expression. Épreuve orale collective. Vous allez entendre un enregistrement sonore. A. Compréhension orale, deux écoutes. Vous écouterez attentivement une première fois le document sonore. Vous aurez ensuite 2 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez 3 minutes supplémentaires pour compléter vos réponses. B. Discrimination auditive. Une seule écoute. Vous répondrez directement aux questions en écrivant l'information demandée ou en cochant d'une croix la bonne réponse. Texte de l'épreuve orale collective. La méditation bonne pour tous. Tout le monde s'y met. Seul dans son salon, au volant de sa voiture, à l'hôpital, avec ses collègues, par centaines devant un maître charismatique ou avec quelques novices réunis dans une salle de gym, en enchaînant des postures de yoga ou en faisant la cuisine, en mangeant. Des millions d'entre nous s'adonnent désormais à cet exercice délibéré d'attention à ce qui se passe moment après moment, dans le présent vivant, sans aucune attention ni conception. Si la vague a pris forme aux États-Unis il y a environ 40 ans, elle n'a inondé la France que récemment. Mais les temps changent. Dans un contexte de crise économico-écologico-sociétale, dont nul ne voit le bout, chacun part en quête d'un moyen de garder la tête hors de l'eau. Pour cela, les grands consommateurs d'anxiolytiques que nous sommes, cherchons des alternatives. Certes, il y a la psychanalyse et les psychothérapies, mais cela coûte souvent cher, dure longtemps et peine à trouver une place dans l'agenda. La méditation, c'est gratuit, sans matériel, cela peut se pratiquer à tout moment. Et les témoignages de méditants transformés se multiplient, avec des preuves à l'appui. Outre leur satisfecit personnel, une somme d'études scientifiques démontre les bienfaits de la pleine conscience sur le cerveau et sur la santé. Au pays de Descartes, il n'en fallait pas plus pour convaincre jusqu'aux médecins les plus dubitatifs. Si la méditation trouve tant d'adeptes, c'est aussi parce qu'elle s'impose comme un contrepoint au divertissement propre à notre époque. Méditer invite à se rassembler en exerçant son esprit à être présent au seul présent. D'où sa promotion auprès des jeunes sujets aux troubles de l'attention. D'après le philosophe Fabrice Midal, fondateur de l'école occidentale de méditation, cette pratique vient répondre à une crise majeure engendrée par un recours constant à l'abstraction scientiste. Convaincus du pouvoir supérieur de la science et de la raison, nous en sommes venus à nous abstraire du réel pour ne plus le considérer que comme une somme d'objets mesurables. Face à ce fantasme de contrôle, la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place d'être vivant parmi les autres, ce qui entre d'ailleurs en résonance avec la mouvance écologique. Puis, quoique la compassion et l'altruisme en soient les corollaires, méditer, c'est d'abord être seul avec soi et ses pensées. Alors, tous méditants demain ? Fabrice Midal nous souffle la réponse quand il estime que la méditation est à l'esprit ce que la gymnastique fut au début du XXe siècle pour le corps. Or, s'il y a aujourd'hui une majorité de personnes pour dire que la gym est indispensable, il en reste quantité d'autres pour refuser de s'y mettre. Surtout quand cette gym est soudain présentée comme LA solution à tous les maux. Croire que la méditation va changer le monde relève d'une grande naïveté. Elle ne remplace pas la pensée, estime Daniel Lévy-Alvarez. Aurions-nous plus de chances de sortir de la crise si nos dirigeants méditaient ? Peut-être, mais peut-être pas. On peut être lucide sans méditer. Bien des individus l'ont prouvé dans l'histoire. Cette mode laisse aussi penser que la pratique de la méditation peut offrir à tous le bien-être immédiat. Or, il y a des contre-indications psychiatriques, psychose, crise d'angoisse. Et surtout, si la pratique est simple, elle n'est pas facile. Dans le silence de l'assise, les pensées et les jugements sur soi peuvent être très envahissants, sans parler de l'inconfort physique. D'après le bouddhisme, ce sont là des manifestations de l'ego qui ne supportent pas d'être réduits au silence. Ainsi, loin de nous aider à fuir nos difficultés, la méditation oblige à s'y confronter comme jamais. Mais, après des siècles de philosophie et de psychologie qui nous ont donné le goût de la lucidité, il semble que nous soyons prêts à payer ce prix. Par Anne-Laure Ganac, magazine Psychologie, hors série, Le guide de la méditation. Fin de la première écoute. Vous avez 2 minutes pour commencer à répondre aux questions. Texte de l'épreuve orale collective. La méditation bonne pour tous. Tout le monde s'y met, seul dans son salon, au volant de sa voiture, à l'hôpital, avec ses collègues, par centaines devant un maître charismatique ou avec quelques novices réunis dans une salle de gym, en enchaînant des postures de yoga ou en faisant la cuisine, en mangeant. Des millions d'entre nous s'adonnent désormais à cet exercice délibéré d'attention à ce qui se passe moment après moment, dans le présent vivant, sans aucune attention ni conception. Si la vague a pris forme aux États-Unis il y a environ 40 ans, elle n'a inondé la France que récemment. Mais les temps changent. Dans un contexte de crise économico-écologico-sociétale, dont nul ne voit le bout, chacun part en quête d'un moyen de garder la tête hors de l'eau. Pour cela, les grands consommateurs d'anxiolytiques que nous sommes, cherchons des alternatives. Certes, il y a la psychanalyse et les psychothérapies, mais cela coûte souvent cher, dure longtemps et peine à trouver une place dans l'agenda. La méditation, c'est gratuit, sans matériel, cela peut se pratiquer à tout moment. Et les témoignages de méditants transformés se multiplient. avec des preuves à l'appui. Outre leur satisfecit personnel, une somme d'études scientifiques démontre les bienfaits de la pleine conscience sur le cerveau et sur la santé. Au pays de Descartes, il n'en fallait pas plus pour convaincre jusqu'aux médecins les plus dubitatifs. Si la méditation trouve tant d'adeptes, c'est aussi parce qu'elle s'impose comme un contrepoint au divertissement propre à notre époque. Méditer invite à se rassembler en exerçant son esprit à être présent au seul présent. D'où sa promotion auprès des jeunes sujets aux troubles de l'attention. D'après le philosophe Fabrice Midal, fondateur de l'école occidentale de méditation, cette pratique vient répondre à une crise majeure engendrée par un recours constant à l'abstraction scientiste. Convaincus du pouvoir supérieur de la science et de la raison, nous en sommes venus à nous abstraire du réel pour ne plus le considérer que comme une somme d'objets mesurables. Face à ce fantasme de contrôle, la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place d'être vivant parmi les autres, ce qui entre d'ailleurs en résonance avec la mouvance écologique. Puis, quoique la compassion et l'altruisme en soient les corollaires, méditer, c'est d'abord être seul avec soi et ses pensées. Alors, tous méditants demain ? Fabrice Midal nous souffle la réponse quand il estime que la méditation est à l'esprit ce que la gymnastique fut au début du XXe siècle pour le corps. Or, s'il y a aujourd'hui une majorité de personnes pour dire que la gym est indispensable, il en reste quantité d'autres pour refuser de s'y mettre. Surtout quand cette gym est soudain présentée comme LA solution à tous les maux. Croire que la méditation va changer le monde relève d'une grande naïveté. Elle ne remplace pas la pensée, estime Daniel Lévy-Alvarez. Aurions-nous plus de chances de sortir de la crise si nos dirigeants méditaient ? Peut-être, mais peut-être pas. On peut être lucide sans méditer. Bien des individus l'ont prouvé dans l'histoire. Cette mode laisse aussi penser que la pratique de la méditation peut offrir à tous le bien-être immédiat. Or, il y a des contre-indications psychiatriques, psychose, crise d'angoisse. Et surtout, si la pratique est simple, elle n'est pas facile. Dans le silence de l'assise, les pensées et les jugements sur soi peuvent être très envahissants, sans parler de l'inconfort physique. D'après le bouddhisme, ce sont là des manifestations de l'ego qui ne supportent pas d'être réduits au silence. Ainsi, loin de nous aider à fuir nos difficultés, la méditation oblige à s'y confronter comme jamais. Mais, après des siècles de philosophie et de psychologie qui nous ont donné le goût de la lucidité, il semble que nous soyons prêts à payer ce prix. Par Anne-Laure Ganac, magazine Psychologie, hors série, Le guide de la méditation. Fin de la deuxième écoute. Vous avez encore 3 minutes pour compléter vos réponses. B. Discrimination auditive. Attention, vous n'entendrez ce document sonore qu'une seule fois. Écoutez le document sonore et répondez directement en cochant d'une croix la bonne réponse. 1. Cochez le mot que vous avez entendu. Petit A. Des millions d'entre nous s'adonnent désormais à cet exercice. Petit B. Les grands consommateurs d'anxiolytiques que nous sommes cherchons des alternatives. Petit C. D'où sa promotion auprès des jeunes sujets aux troubles de l'attention. Petit D. De même que le repli sur soi est un désengagement de la vie sociale. Deux. Complétez les phrases suivantes en cochant ce que vous avez entendu. Petit A. Dont nul ne voit le bout. Chacun part en quête d'un moyen de garder la tête hors de l'eau. Petit B. Face à ce fantasme de contrôle, la méditation promeut le lâcher-prise et le retour à sa place d'être vivant parmi les autres. Petit C, car comme toute mode, celle-ci a généré son lot de charlatans. Petit D, les pensées et les jugements sur soi peuvent être très envahissants. Fin de l'épreuve orale collective.